Bonjour à tous, du coup je me présente, je suis Elliot Demetre, je suis content stratégiste team lead au sein de Wheel of Words. Content stratégiste, c'est un métier un petit peu particulier. Mon rôle, c'est d'accompagner mes clients dans la production de leur contenu et aussi de les conseiller au quotidien sur leur stratégie éditoriale, leur stratégie de contenu. Donc ça me tenait à cœur de prendre la parole sur ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est pas évident de éco-concevoir des contenus et nous, en tant que content stratégiste, on a un rôle où si on veut impulser ça auprès de nos clients, bah, il faut avoir les règles en tête. Mais je vais passer la parole du coup à Nicolas qui va nous parler un petit peu de l'impact carbone d'un contenu.
Ouais, merci beaucoup. Donc rapidement à mon sujet, donc Nicolas Crestin, donc, cofondateur de Samy. Moi, je suis responsable de la partie opération expertise. Donc les opérations, c'est ceux qui accompagnent nos clients au jour le jour. Et l'expertise, c'est l'équipe qui fait de la veille et du développement méthodologique pour être sûr qu'on accompagne nos clients de la meilleure manière que ce soit et qui respecte les standards internationaux, etc. Mon expérience, c'est une formation d'ingénieur agronome, un master spécialisé en entrepreneuriat, ce qui m'a probablement amené ici aujourd'hui, et un peu de code au wagon, et première expérience professionnelle chez Pure Projet, qui est une entreprise qui est opérateur de projets environnementaux, en fait. Donc, on déploie des projets environnementaux un petit peu partout dans le monde, dans le cœur des filières des clients. Donc, comment auditer en Côte d'Ivoire le chocolat et faire en sorte qu'on est capable de déployer des pratiques agricoles qui soient plus responsables, etc. etc. Donc une expérience assez stratégie environnementale pour des grands groupes et spécialité aussi carbone, parce que c'est des projets qui ont capacité de séquestrer du CO2. Et donc j'ai cofondé Samy. Samy, c'est la plateforme climat tout en un. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, c'est une plateforme sur laquelle on va accompagner nos clients dans les principales briques de la mise en place d'une stratégie climat. Ça passe évidemment par la mesure. Ça, c'est la première chose, c'est avoir conscience de son impact, notamment via la méthodologie du bilan carbone. Et Julien en parlait tout à l'heure sur les biais liés au greenwashing, c'est que certains communiquent sans vraiment savoir et n'ont pas forcément la notion de proportionnalité justement. Et donc en fait, quand on est en face à son bilan carbone, on se rend bien compte que un poste a un énorme impact versus l'autre. Donc on va a priori pas se focaliser sur le plus faible. Donc mesurer, réduire, donc mettre en place un plan d'action qui permette d'avoir une réduction effective de ces émissions dans le temps et se fixer des objectifs. Donc là, on va pousser automatiquement un certain nombre d'actions qu'on a scorées, et donc on est capable de scorer un plan d'action suite à la réalisation d'un bilan carbone sur notre plateforme. La partie contribution, voilà, qui vient après ces deux briques. Donc contribuer, c'est financer effectivement des projets de séquestration, etc. C'est quelque chose qu'on peut faire de manière additionnelle à une stratégie complexe, et enfin communiquer. Et donc là, je rejoins. Donc nous, on n'est pas, des communicants, mais on donne quelques guidelines justement sur comment bien communiquer son contenu. Et ça passe par les premières briques justement de mesurer son impact, de connaître là où il a lieu, de mesurer la capacité de réduction et pas s'engager sur des choses impossibles, etc. Aujourd'hui, on a un peu plus de 300 clients. Nous, c'est principalement des PME et des ETI, et c'est sur tous les secteurs. Donc, on accompagne aussi bien des boîtes tech comme Doctolib ou celle-ci, des boîtes agroalimentaires comme Michel Augustin, des marques de mode comme Rouge ou Bonne Gueule, ou des entreprises de services. Mais donc, aujourd'hui, je suis plus là pour vous parler de numérique et pas forcément des impacts d'un biscuit, par exemple. Je ne sais pas ce que vous connaissez sur l'empreinte carbone du numérique, mais d'un point de vue méthodologique, on identifie trois postes principaux quand on parle d'empreinte du numérique. Il y a évidemment les serveurs, et c'est généralement en fait ça ce que pense tout le monde. C'est le numérique, c'est les serveurs, les énormes data centers qui consomment. C'est vrai, les data centers, ça émet du CO2, à leur conception, la fabrication, évidemment, et puis à leur utilisation, donc la consommation d'énergie liée au flot de données qui est stocké et surtout traité au sein de ces data centers. Mais une fois que les données sont là-bas, pour qu'elles arrivent à vos ordinateurs, il faut un réseau. Et donc ça, c'est le deuxième poste. Et donc le réseau, c'est quoi ? C'est les réseaux filaires, c'est les réseaux mobiles ou fixes, 2G, 3G, 4G, 5G. C'est la Wi-Fi, c'est le Bluetooth. Donc voilà, donc il faut de l'énergie en fait pour que ces réseaux fonctionnent et transfèrent finalement la donnée jusqu'aux terminaux. Et donc là, les terminaux, bah, c'est vos ordinateurs que vous avez sous la main, c'est vos téléphones, c'est vos tablettes. Et en fait, ça aussi, ça a un énorme impact sur l'environnement. Et il y a deux postes derrière les terminaux, il y a leur consommation énergétique. Donc effectivement, je scrolle Instagram, mon ordinateur va consommer de l'énergie. Et puis il y a leur fabrication également, qui a une part significative. Voilà, d'où les recommandations d'essayer d'allonger la durée de vie de ces équipements, etc. Alors là, j'ai voulu vous montrer la part du numérique dans un bilan carbone. J'ai utilisé notre propre base de données. Et donc, je vous ai montré un petit peu, bah, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise, quel est en fait son pourcentage d'empreinte qui est liée au numérique. Donc, sans surprise, des acteurs de la tech, c'est ceux qui ont une empreinte la plus élevée sur le numérique, avec 35%. Les services traditionnels non financiers, on est plutôt autour de 10-15%. Et puis bon, bah, si on descend, agriculture, agroalimentaire, construction, c'est en dessous de 1%, parce que c'est évidemment des peu consommateurs en numérique. On retrouve la mode, parce que bon, les marques de mode ont des sites internet avec toutes leurs références, la Redoute. Donc une part significative des émissions, voilà. Si on prend toute notre base de données, la moyenne des bilans carbone, enfin du numérique au sein d'un bilan carbone total, c'est 3,7%. Et en fait, on se rapproche des études qu'on retrouve. Donc la moyenne nationale est estimée à 2,5% en France et mondiale de 3 à 4%. Donc voilà, le numérique a quand même une part substantielle. Hein. Si en pourcentage 1, 2, 3, on a l'impression que c'est faible, ça reste conséquent et il n'y a pas de petit poste d'émission. Et Elliot m'a demandé de faire un petit exercice, donc c'est de, en fait on sort un livre blanc bientôt, et nous chez Samy on a l'habitude de tout compter en carbone vu que c'est un peu notre métier, dès qu'on fait quelque chose on le mesure, et du coup on a fait un peu Inception parce qu'on a fait le bilan carbone d'un livre blanc qui parle de bilan carbone, et donc je vais vous exposer un petit peu le calcul et les résultats de ce travail là. Donc j'ai fait simple, je suis allé sur notre app du coup, donc où il y a beaucoup de collecteurs, de calculateurs pour que justement les entreprises puissent réaliser leur empreinte. Et donc j'ai complété les informations et j'ai pris des hypothèses, parce que bon, il n'est pas encore tout à fait finalisé ce livre blanc, mais on y arrive. C'est un livre blanc qui fait 50 pages, alors là j'ai mis 1,8, mais je crois que c'est plus que ça au final, mais je crois que j'ai plutôt mis 15, mais désolé pour l'erreur. Ça a été 7 jours de travail cumulé. Donc là je parle vraiment des émissions de la production, c'est que avant même qu'ils soient envoyés, bah, le fait de travailler dessus a de l'émission. Donc j'ai travaillé dessus 7 jours, la vérité c'est pas moi, mais voilà. 7 jours, 50 pages, j'ai travaillé sur un ordinateur, j'ai travaillé en France. Voilà, ça c'est mes hypothèses sur la production. Sur la, consultation, on a estimé à peu près le temps de lecture de 15 minutes. Alors si vous le lisez dans le détail, ce sera probablement plus, mais généralement on passe à certaines slides un peu vite. On a estimé, on a été modeste, voilà, 1000 téléchargements. Et les utilisateurs, donc les lecteurs, sont à 50% sur des laptops, à 50% sur des smartphones. Et comme il sera en anglais et qu'on essaye de faire parler de nous un petit peu en Allemagne, eh ben on a estimé que 80% des lecteurs seraient en France et 20% en Allemagne. Voilà pour les suppositions. Et j'ai exclu la partie diffusion, c'est-à-dire que voilà, on va faire des posts, on va faire du mailing. J'ai fait un calcul de temps de table, c'était assez restreint comme impact. Donc je me suis concentré sur la production et la consultation. Et donc, voilà les résultats. On retrouve les postes dont je vous parlais juste avant. Donc, on retrouve le poste production et le poste consultation. Donc, le poste production est significativement moins émissif, mais bon, ce qui est normal, j'étais tout seul sur mon ordinateur à travailler. Et on retrouve le split entre les émissions liées au data center, les émissions liées au réseau, donc au transfert de données, les émissions liées aux terminaux, la consommation d'énergie des terminaux et leur fabrication. On voit que la fabrication des terminaux, encore une fois, a une part substantielle. Dans le calcul, encore une fois, c'est point de vue méthodologique, c'est qu'on considère qu'un ordinateur a une durée de vie de 3 ans, disons. Et donc, si je passe 15 minutes de ces 3 ans à consulter les livres blancs, moi, je considère que je suis un petit peu responsable. Voilà, donc c'est on amortit en fait l'émission globale d'un ordinateur sur les 15 minutes pour estimer les émissions. Voilà, donc ça, on arrive à peu près à 10 kg de CO2 avec les hypothèses que j'ai mises en avant. Et après, je me suis prêté un petit exercice de faire varier certaines variables. pour voir quel impact ça avait. Et donc la première, c'est que je me suis dit, bah, si j'avais été en Allemagne, par exemple, pour produire ce livre blanc, bah, quel impact ça aurait. Et donc on voit en fait que sur voilà, l'impact global de production plus consultation, ça augmenterait les émissions de CO2 de 17%, finalement lié au fait que bah, la consommation d'énergie, et on voit, hein, c'est les postes réseau et consommation d'énergie des terminaux qui consomment le plus, qui augmentent. Voilà, c'est parce que bah, en Allemagne, finalement, le mix énergétique est plus carboné, parce qu'il y a plus de gaz, plus de charbon, etc. Donc voilà, donc, travailler en Allemagne, émet plus de CO2. J'ai fait varier également un autre paramètre qui est la consultation. Rien contre voilà, taper sur nos amis allemands, effectivement, mais c'est un bon exemple parce qu'on a vraiment des mix énergétiques très, très différents. Et donc là, je suis parti du principe que non, finalement, ma cible, c'était bah, que l'Allemagne et que 100% des consultations étaient réalisées en Allemagne. Et bah, on voit que les émissions augmentent là, cette fois, de 20%. Si je fais jouer un autre paramètre, c'est le temps de lecture moyen. Donc si je me dis, en fait, non, je fais un livre blanc beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, beaucoup plus fourni, les personnes vont y rester 30 minutes. Et ben là, je vois qu'en fait, c'est l'un des critères extrêmement importants dans l'impact. Et donc, je double quasi l'empreinte carbone de mon livre blanc en faisant en sorte qu'il soit plus long. Donc voilà, donc, consommation des utilisateurs. Et le dernier... Non, il n'y en a pas. Voilà. C'était. Je suis désolé, il n'y a pas de slide de conclusion, mais je vous ai partagé un petit peu le petit exercice que j'avais fait en interne sur ce livre.
On a fait l'exercice un peu de se poser des questions de quelles sont les bonnes pratiques pour justement éco-concevoir les livres blancs. On en fait beaucoup chez You Love Words, donc c'est des conseils qui peuvent s'appliquer aux livres blancs, mais à tout type de contenu, que ce soit web, des contenus qu'on peut imprimer en print. Mais bon, on va quand même se concentrer sur le digital parce qu'on parle de l'impact numérique sur les émissions. Mais avant tout ça, on parle beaucoup d'éco-conception et je pense qu'on n'a pas vu de définition forcément tout de suite. C'est un peu une philosophie dans un courant de pensée chez les designers, etc., chez les marketeurs, mais c'est officiellement, on va dire, l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception d'un produit ou d'un service, évidemment en vue d'améliorer la performance environnementale de ce produit ou service tout au long de son cycle de vie. Et je trouvais intéressant ce principe de cycle de vie, parce que l'idée, c'est pas juste de s'intéresser à la production à l'instant T, mais aussi comment on va vivre ce contenu dans le temps. Et un contenu, il est voué à être hébergé pendant X années. Et justement, quand on se pose des questions de téléchargement, des questions d'hébergement sur des plateformes, bah, je pense que c'est important de considérer le temps long pour un contenu, parce que l'impact carbone peut vraiment durer dans le temps et s'étirer, vu qu'on produit en masse. C'est important de se poser ces questions-là. J'ai divisé un petit peu en 4 typologies de bonnes pratiques, UX, éditorial, design et enfin un petit peu stratégie de contenu au global, ce qui sont un peu des grandes thématiques sur la production de contenu. Mais d'un point de vue UX, l'idée, c'est de se poser les questions de quelles questions il faut se poser d'un point de vue UX pour un petit peu simplifier le parcours, fluidifier l'expérience et minimiser évidemment l'impact environnemental des contenus. Et je suis tombé sur ce terme de l'unité fonctionnelle. Donc déjà, je pense que c'est la première question à se poser. C'est quelle est l'unité fonctionnelle de mon produit, de mon service ? Alors là, on va plutôt parler d'un site web. L'unité fonctionnelle, c'est un petit peu la fonction principale que remplit mon site, mon service, qui se traduit souvent par un acte métier. Donc acheter une plage de concert, regarder une vidéo en ligne ou rechercher un numéro de téléphone dans l'annuaire. C'est la première question à se poser. Elle est assez basique, mais en fait, ça traduit qu'il faut éliminer tout ce qui n'est pas essentiel comme aboutissement sur un site. Ce qui vient à la seconde question, de combien d'étapes et d'efforts faut-il pour y arriver à cette unité fonctionnelle. L'idée, c'est d'éliminer évidemment le plus d'étapes possible. Ça a un double bénéfice qui est de réduire le temps passé sur un site web et donc de minimiser l'impact énergétique, mais aussi de fluidifier le parcours de l'utilisateur qui trouvera les réponses à ces questions. Ensuite, est-ce que ce parcours est accessible ? Alors, dans la RSE, il n'y a pas que l'environnement, mais aussi l'accessibilité, beaucoup d'autres choses, mais l'accessibilité, ça prend en compte. Est-ce que mon contenu est fluide ? Est-ce qu'on comprend rapidement ? Est-ce que j'ajoute un sommaire dans ma page pilier ? On peut avoir 5000 mots, et un sommaire ou des encres peuvent aider aussi à réduire le temps qu'on passe sur une page. C'est aussi penser en mobile first quand on conçoit un site, une page web. Quand on la pense d'abord pour mobile, bah, on va réduire le nombre de contenus qui vont servir à rien parce qu'on a, on aura moins d'espace. Donc, on va avoir un site qui sera de base plus minimaliste et plus efficace dans le parcours. Et enfin, bah, en fait, la quatrième question, elle est presque évidente. Du coup, c'est comment je peux augmenter le taux de transformation sur mon site en raccourcissant le parcours. Et c'est ce que je disais, c'est que l'éco-conception a ce bénéfice de réduire un petit peu les pain points que peut avoir un visiteur sur un site, donc ne pas réussir à trouver ce qu'on cherchait ou abandonner son parcours parce que ça paraît trop loin. Et en même temps, bah, ça permet aussi de diminuer l'impact environnemental de mon contenu ou de mon site web. Alors ça, c'est plus notre cœur de métier ici, mais il y a aussi des bonnes pratiques éditoriales qui sont assez simples. Mais l'idée aussi, c'est de, pour réduire un peu le temps passé sur un contenu et réduire son poids, bah, c'est de rédiger clairement et de manière synthétique. Si on veut faire passer un message ou parler d'un produit, il faut être, bah, voilà, faut être sharp, comme on dit. Il faut être synthétique, il faut aller directement à l'essentiel pour ne pas perdre le lecteur. C'est aussi faciliter la navigation via une structure claire. Donc ça, c'est un plan qui soit logique, qui soit aussi parfois, comme je disais, avec des encres ou un sommaire. C'est présenter le texte de manière accessible, avec des aides à la lecture. Donc ça, c'est aussi un travail sur le design de la page pour qu'on n'ait pas trop d'éléments, trop d'images, trop d'éléments confusants qui viendraient perturber la lecture et donc faire passer plus de temps à la personne sur notre page. Et enfin, pour répondre aussi un peu à la question sur le e-book, vu que c'est un peu l'exemple d'aujourd'hui, on peut fournir un résumé un petit peu de notre e-book avant d'inciter le téléchargement. Ça permet de... Bah un téléchargement, ça, c'est quand même assez énergivore quand on a plusieurs MO de téléchargement. Bah pourquoi pas un résumé en infographie des éléments clés de notre e-book. Ça permet d'éviter un téléchargement et, voilà, et de quand même transmettre l'information qu'on voulait, vraiment la moelle substantielle qu'on voulait transmettre via ce e-book en évitant un téléchargement. Évidemment, si on veut aller plus loin, c'est le télécharger ou l'héberger sur notre site. Ensuite, les pratiques de design qui font vraiment clairement écho à l'éditorial, qui vont de pair. Mais il y a un enjeu, évidemment, sur la photo et la vidéo, sur les images. Je ne vous apprends rien, mais compresser ces images, c'est extrêmement important pour réduire le poids de ces pages, ce qui a aussi un impact sur le SEO, parce que notre page sera chargée plus vite. Mais idéalement, il faut viser entre 700 et 800 pixels de largeur pour une utilisation qui soit sur le web. Le bon format pour les photos, ça va être le JPEG, pas forcément le PNG. Et pour les images, on va être sur du SVG, donc idéalement du format vectoriel qui sera vraiment très très léger sur un site. Et enfin, en lisant un peu de matière sur ce sujet, j'ai trouvé sur une astuce que je trouve anecdotique mais assez ingénieuse qui traduit un peu la pensée de l'éco-conception. Par exemple, en faisant un tour sur une page Welcome to the Jungle, on a 20 photos de 20 collaborateurs. Et une des astuces était de bah, pourquoi pas faire simplement une photo de groupe plutôt que des photos individuelles. Donc c'est des petites astuces, mais on réduit vraiment beaucoup l'impact d'un site, d'un shooting, en mettant bah, toutes les photos comme ça, de manière assez collégiale pour réduire l'impact. Et ensuite, sur la vidéo, là, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elle est essentielle, à quoi elle répond, est-ce qu'elle fera mieux le travail, entre guillemets, elle transmettra mieux une information qu'un texte ou une photo, quelle est sa plus-value face aux autres formats, parce que la vidéo, évidemment, je vous apprends rien, mais c'est un format extrêmement lourd et plus compliqué aussi à produire. Donc c'est évidemment bannir l'autoplay et les fonds vidéo. Donc parfois on a des vidéos qui tournent toutes seules sur des pages dans un coin ou même en scrollant sur les réseaux sociaux. Je suis tombé aussi sur une proposition du Sénat pour une future loi qui est en cours de discussion, mais c'est de justement interdire la lecture automatique des vidéos sur le digital. Donc c'est pas anecdotique, c'est-à-dire cette question-là elle est remontée jusque dans les oreilles des politiques. Il faut voir, ça questionne aussi la question des réseaux sociaux, mais en tout cas sur les sites web, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les autoplays sont une plaie, justement. Et enfin, bah, à l'instar des images, c'est compresser les vidéos et les sons. On a plein de logiciels qui sont très simples et qui permettent de réduire de 38% par exemple une vidéo, le poids d'une vidéo, sans forcément toucher à la qualité. En tout cas, sauf si on est un studio photo, on ne verra jamais la différence sur une vidéo, un motion design ou une interview. Et enfin, c'est des bonnes pratiques sur les stratégies de contenu. Donc, quel contenu on veut pour notre marque, où est-ce qu'on va les diffuser. Donc, je vais évidemment pas trop parler de la diffusion parce que je crois que c'est juste après qu'on va aborder ce sujet-là. Mais choisir des formats qui sont peut-être moins énergivores. Par exemple, si on va peut-être pas forcément faire un e-book de 30 pages, si on peut le dire en 10. Et pourquoi pas faire une infographie à la place d'un e-book quand on peut transmettre ces choses-là en une one-page PDF. Et après, c'est les diffuser sur les canaux adaptés. Privilégier du coup des formats qui soient rédactionnels et visuels fixes. Donc c'est éviter quand même le GIF. Le GIF, en termes d'autoplay, on est en plein dedans. Et la vidéo, vraiment, s'il y a une plus-value à cette vidéo, c'est intéressant de la sélectionner, mais vraiment le texte et la photo à privilégier. Ça là-dessus, j'avance quelque chose, je ne suis pas forcément sûr, mais éviter le duplicate content, je pense que c'est déjà une pratique qu'on conseille à nos clients, d'éviter de dupliquer un contenu qui pourrait cannibaliser en SEO. Mais en fait, c'est aussi un contenu qu'on va dupliquer, donc héberger sur différents supports, et donc multiplier par X le bilan carbone de notre contenu, et éviter aussi potentiellement de diffuser le même contenu sur tous les réseaux qu'on a, tous les canaux. On ne va peut-être pas mettre cette infographie sur notre site, sur notre Twitter, notre Instagram, notre LinkedIn, et pourquoi pas notre TikTok. Finalement, en fait, se poser la question de ce contenu, il est peut-être plus pertinent sur ce canal, et pas le mettre sur tous, pour éviter de multiplier les points de contact, mais du coup l'impact qu'on a sur l'environnement. Et enfin, choisir un petit peu le social media qui convient le mieux en termes de consommation énergétique. Donc on l'a vu, YouTube, c'est celui qui consomme le moins, alors en termes de temps passé dessus, Instagram et LinkedIn aussi. Et à l'inverse, TikTok et Facebook sont très coûteux en carbone. TikTok, je pense qu'il y a une vraie plus-value, tout le monde n'y va pas, mais Facebook, on peut se poser la question de l'intérêt d'y aller quand on peut aller sur YouTube, Instagram et LinkedIn. Parfois, on a un carrefour des audiences, on se rend compte qu'on a les cibles qui se ressemblent un peu, donc se poser la question de si c'est pour toucher deux fois la même personne avec le même contenu, on peut se passer de ce réseau.